Nous avons encore une heure et demie, et nous faut donc essayer de finir, de voir quelques autres éléments. Alors, ce matin, je pense qu'on a en gros traité, survolé, ce qu'on peut découvrir dans Matthieu concernant mon grand 1, donc du grand B, hein, une théologie de l'histoire, l'accomplissement, et le grand 2, une présentation de Jésus, le nouvel Israël. Le nouvel Israël. On pourrait bien sûr développer. On pourra encore développer. On va abandonner ce point. En tout cas, j'espère que disons, discerner un peu, si je ne me trompe pas dans ma façon de présenter les choses, combien Matthieu a cherché à présenter Jésus en décryptant le personnage de Jésus. En s'appuyant bien sûr sur la manière dont Jésus s'est compris lui-même, mais en présentant Jésus comme un nouvel Israël, comme le nouveau Moïse qui amène le peuple dans un nouvel exode hors du péché. Il y a là un thème qui est très présent au début de l'évangile. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce thème est particulièrement présent au début de Matthieu. Matthieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la nouvelle loi. Hein. Mais qu'à partir du moment où Jésus va commencer à parler de lui-même et à se désigner lui-même, il va éviter, d'une manière un peu comme la peste, si vous voulez, il va éviter de s'appeler le Christ, le Messie. Il n'acceptera qu'on l'appelle ainsi qu'à certains moments tout à fait particuliers, en particulier lors de la confession de Pierre, Matthieu 16, auquel nous allons revenir un peu plus tard, Matthieu 16. Donc, verset 16. Prenant la parole, Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on voit que ça se passe dans le groupe assez restreint des disciples, que Jésus n'accepte pas qu'on dise cela sur la place publique, à cause des mauvaises compréhensions que les gens avaient du Christ, du Messie. Pour eux, le Messie devait être un Messie royal, un Messie politique. Et Jésus refuse de rentrer dans cette compréhension des choses. Alors, comment va-t-il s'appeler ? Dans Matthieu, on retrouve ça dans Marc, on retrouve ça dans Luc, il va se désigner lui-même au moyen d'un terme, c'est le Fils de l'homme. C'est donc mon grand 4, le Fils de l'homme. On a un peu parlé du serviteur, c'est le petit 3, pardon, le petit 3, mais il y a le Fils de l'homme, le 4. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le temps de traiter cette question du Fils de l'homme. La première mention dans Matthieu de ce titre, attendez, je prends mes notes. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Le voilà, mon tableau. La première mention se trouve en 8:20. Matthieu 8:20, donc juste après le sermon sur la montagne. Jésus, après avoir été présenté par Matthieu, Nouvel Israël, Nouveau Moïse, après le sermon sur la montagne, Moïse qui donne, le nouveau Moïse qui donne la nouvelle loi sur le nouveau Sinaï, on entre dans les premiers cycles de narration, hein, dans le cycle de narration qui va donc 8, 9, qui aboutit à 10, hein, que nous avons vu la fois passée. Hein. Puis après, on a 10, après on a 11, 12, et on aboutit au parabole dans 13. Ça, vous nous suivez ? Oui ? Donc, on entre dans ce cycle de narration où Jésus commence à se présenter lui-même. Alors, 8:20, première mention du Fils de l'homme. Jésus lui dit, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel des nids, le Fils de l'homme, lui, n'a pas opposé sa tête. Deuxième mention du Fils de l'homme, c'est dans 9.6, chapitre 9, verset 6. Donc, toujours dans ces textes narratifs qui introduisent le chapitre 10, l'envoi des 12 en mission. Alors, je vais simplement lire ce chapitre 9, verset 1 à 8, pour introduire ce thème du Fils de l'homme. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va simplement lire ce texte. Jésus monta donc dans la barque, traversa la mer et vint dans sa ville. Voici qu'on lui amenait un paralysé étendu sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, confiance, mon fils. Qu'est-ce qu'on a en grec? Attendez, 9.2. C'est à toi que je lis. Hein. Confiance, mon fils. C'est bizarre, ça. Confiance, mon fils. Et voyons leur foi. Un paralytique. Hein. Ah oui, d'accord, personne. D'accord. Très bien. Confiance, mon fils. Oui, oui. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, confiance, mon fils. Oui. Tes péchés sont pardonnés. Or, quelques scribes se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Vous voyez, donc les pharisiens, les scribes, ne s'adressent pas à Jésus. Ils parlent en eux-mêmes. On est là dans la section où on ne s'adresse pas encore à Jésus directement. Sachant ce qu'ils pensaient, Jésus dit, pourquoi ces pensées mauvaises dans vos cœurs? Qu'y a-t-il donc de plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralytique, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. Nous avons là le Fils de l'homme donc, qui commence à se révéler aux hommes. Là, j'aimerais simplement relever en haut de points et puis vous encourager à réfléchir après chez vous et à travailler la question. D'où vient cette expression « fils de l'homme » que Jésus s'applique à lui-même? Est-ce que c'est un titre reconnu du Messie, comme le Christ, c'est le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David, le Saint, tout ça, ce sont le Saint de David, la saïenneté, tout ça, ce sont des titres reconnus à l'époque comme des titres messianiques que Jésus refuse. Il ne refuse pas catégoriquement puisqu'il accepte que Pierre confesse. Il accepte aussi que les aveugles l'appellent fils de David. Mais ce n'est jamais lui qui s'appelle ainsi pour éviter les quiproquos. Mais quand Jésus parle de lui, il parle très souvent se désignant fils de Dieu. Est-ce que, la question qui se pose, est-ce que cette expression était une expression reconnue, connue, comme devant désigner le Messie à l'époque? Ou pas? Est-ce qu'en entendant Jésus parler du Fils de l'homme, les Juifs de l'époque disaient « Ah oui, il se prend pour le Messie !» Ou est-ce qu'en fait c'était ambigu? Vous voyez les questions? Et pourquoi est-ce que Jésus s'appelle ainsi? Alors, pas du tout le temps de démontrer quoi que ce soit. Là, vous avez tout un cours, si vous voulez, sur le Fils de l'homme. Mais bon, j'aimerais vous donner quelques pistes. Que veut dire Fils de l'homme, Barnacha, en araméen? Ou Ben Adam, en hébreu, c'est Barnacha, en araméen. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire l'homme ou les hommes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, verset 1 ou 2. Donc lorsque l'on parle du fils de l'homme, des fils de l'homme, ça veut dire les hommes. En hébreu. Et lorsque Jésus disait « Et afin que vous sachiez que Barnacha
a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralytique, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Comment est-ce que les Juifs ont compris cela? Est-ce qu'ils ont dit, ah, il parle de lui, on se donne un titre messianique? Ou est-ce qu'ils ont compris, ah, il parle des hommes, Barnacha, les hommes? Ou alors, on peut comprendre aussi, un homme comme moi. Comment ont-ils compris cette expression? Alors j'aimerais souligner le verset 7. Le verset 8, pardon. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. Le texte grec, tois anthropois, aux hommes au pluriel. Et il semble bien que les Juifs ont compris que Jésus disait, afin que vous sachiez que les hommes, ou un homme comme moi, a le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien il dit au paralytique, pardonne-toi. Et les foules disent, mais Seigneur, c'est extraordinaire d'avoir donné ce pouvoir aux hommes. C'est-à-dire aux hommes, ou alors à un homme comme lui, un prophète exceptionnel comme lui, ou alors aux hommes en général, alors que c'est toi qui pardonnes aux hommes. C'est incroyable. On se trouve là face à un texte très étrange. Voici donc première question. Comment comprenez-vous ça? Deuxième question. Si on creuse le problème du titre messianique, est-ce qu'à l'époque de Jésus, dans la littérature juive, il existe des textes qui appelle le Messie fils de l'homme? Donc en prenant l'expression fils de l'homme, non pas comme un mot général désignant les hommes, ou un homme comme moi, mais comme désignant une personne précise qui est le Messie. Alors il y a des discussions. Et des discussions de spécialistes, parce qu'en fait, il est vrai que dans certains écrits juifs, en particulier dans deux écrits, ce qu'on appelle les paraboles d'Enoch, que vous trouvez, et puis aussi un autre livre, 4 Esdras. Donc ce sont deux écrits qu'on appelle pseudépigraphes apocryphes, deux écrits pseudépigraphes juifs. Le Messie est appelé fils de l'homme, surtout dans les paraboles d'Enoch. Dans une section d'un livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Les paraboles composent quelques chapitres, une vingtaine de chapitres de ce livre. De quand date ce livre? Ces deux livres, qui sont les écrits, les seuls écrits, où de manière évidente, le Messie est appelé fils de l'homme, surtout les paraboles de l'homme. Alors, de quand date-t-il? Pour 4 Esdras, c'est clair, ce livre date d'après 70 après Jésus-Christ. Donc de plus tard. Donc on ne peut pas s'appuyer sur 4 Esdras pour dire qu'à l'époque de Jésus, les Juifs appelaient le Messie le Fils de l'homme. Les paraboles d'Enoch, qu'en est-il? Alors, on a découvert à Qumran de nombreux extraits, même des passages entiers, du livre d'Enoch. Mais ce livre d'Enoch, en fait, on a rassemblé dans ce qu'on appelle le livre d'Enoch différents ouvrages. On parle plus de littérature enochienne aujourd'hui. Ça ne forme pas une unité, ce livre d'Enoch. Et ce que l'on constate, c'est qu'à Qumran, il n'y a aucun texte des paraboles d'Enoch. Est un livre dans ce volume, si vous voulez, des livres attribués à Enoch. Alors il y a deux façons d'interpréter la chose. Soit le livre n'existait pas encore à l'époque, soit
Il existait, mais bon, il n'y a pas de reste de manuscrit renvoyant à ce livre à Qumran. Je dois dire que ce texte de Matthieu me fait pencher assez fortement vers la première solution, le livre n'existait pas encore à l'époque. J'opte personnellement, donc ne faites pas pour cela, hein, pour la thèse que le titre, que le mot, que l'expression fils de l'homme n'était pas une expression reconnue à l'époque pour désigner le Messie. Et qu'il n'y a donc aucun texte juif où le Messie est appelé fils de l'homme avant 70. Alors bien sûr, vous me direz, oui, mais attention, il y a Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7 ne parle pas du fils de l'homme. Daniel 7 parle, vous avez en tête ce texte de Daniel 7 hein, c'est un texte, je vais le lire. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Ah, je suis là, attends. Les livres n'étant plus classés de la même manière dans toutes les Bibles, on est parfois perdu. Hein. Daniel chapitre 7. Là, je suis dans un semeur et pas dans un tome. Donc, c'est l'autre ordre. Voilà. Donc, on voit différents. Bêtes qui interviennent, différentes bêtes, différents monstres qui interviennent, si vous voulez. Et puis à la fin, verset 9. Je regardais encore, pendant qu'on installait des trônes, un vieillard âgé de très nombreux jours, c'est Dieu, prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône embrasé de flammes, de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait, coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient devant lui. La cour de justice prit place, je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la souveraineté, la gloire, la royauté, tous les peuples, toutes les nations, les hommes, toutes les langues, lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. On n'a pas là un titre. On a là quelqu'un semblable à un fils d'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui apparaît sous une forme humaine. C'est pas un titre. Et il y a un « que ». Alors, un « que ». En hébreu, c'est un « que ». « comme ». Quelqu'un comme un fils d'homme. Ben Adam. Comme un fils d'homme. C'est pas du tout un titre comme le Christ. Comme le Saint. Comme le Fils de Dieu. Comme le Seigneur. C'est pas du tout un titre. C'est simplement quelqu'un qui a une forme humaine. De même que les autres apparitions, c'est quelqu'un, quelque chose comme un léopard. Comme un ours qui apparaît sous la forme d'un ours pour les bêtes. Hein. Et rien ne suggère dans la parole de Jésus de Matthieu 8 ou de Matthieu 9 que ce fils de l'homme que Jésus renverrait à cela. Et les Juifs n'ont pas compris. Du tout, comme ça. Oui. C'est ce que je vous. Parce que vous dites, c'est un fils d'impiété. Fils de l'impiété. Ça veut dire c'est un impie. C'est un fils d'homme, c'est-à-dire c'est un humain. Un fils de Jérusalem, c'est-à-dire un juif. Un fils d'Israël. Un fils du péché, c'est un pécheur. Fils d'eux, c'est une façon de dire. Alors, un fils d'homme, hein, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, les fils de l'homme pour que tu. Ben Adam, pour que tu te prennes garde à lui, c'est pas un humain. Et c'est ainsi que les Juifs ont compris la parole de Jésus dans Matthieu 9. Aux hommes, aux humains.
Et donc vous vous trouvez là, face à une manière de Jésus de se présenter lui-même qui est extrêmement bizarre, ambiguë. Il se présente, les Juifs en tout cas ont compris, comme un humain. Voilà donc une troisième problème. Premier problème, c'est quoi, deuxième problème, c'est comment les Juifs ont compris. Troisième, est-ce que c'est un titre reconnu du Messie à l'époque? Je réponds non. Quatrième problème. Ça va, vous me suivez? Et là, Matthieu est différent des autres évangiles. Matthieu insiste sur aux hommes. Matthieu garde l'ambiguïté. Montre que les Juifs n'ont pas compris. Quatrième question. Si les Juifs n'ont pas compris, si les Juifs n'ont pas vu dans cette expression un titre messianique, quel sens Jésus donnait à cette expression dans sa tête quand il disait fils de l'homme? Est-ce qu'il disait un humain? Ou qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que Jésus lui-même voulait dire en disant fils d'homme, fils de l'homme? Pardon? Alors c'est ainsi que les pères de l'Église ont compris. Tous les pères de l'Église ont dit Jésus, en disant fils de l'homme, voulait dire je suis le vrai homme. Un peu comme Hébreu, chapitre 2, je crois, qui cite le psaume 8, qui montre que Jésus est le vrai homme, l'homme, l'Adam, selon la volonté de Dieu, non pécheur. Et que là, Jésus, en disant cela, disait je suis l'homme, le représentant, le nouvel Adam. Comment Jésus comprenait? Alors, bon. On est jusqu'à quelle heure?
15h.
15h45. Ouais. Est-ce que vous voulez, j'essaie un peu de démontrer ce que je vais dire, ou est-ce que je vous dis simplement ce que je pense? Mais en tout cas, je vais d'abord vous dire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans l'évangile selon Matthieu? Alors là, ce n'est pas tellement de la théologie mathéenne qu'on fait, c'est plutôt dans les synoptiques. C'est la même chose dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Mais Matthieu le développe de manière encore plus précise. Regardez. Ça, c'est les fils de l'homme dans Matthieu. Ça, c'est dans Marc, ça, c'est dans Luc. Vous voyez que Matthieu a particulièrement réfléchi là-dessus. Il y a beaucoup plus d'utilisation de l'expression fils de l'homme dans Matthieu que dans Marc, dans beaucoup de textes, hein, où ça ne se trouve pas dans les parallèles dans Marc, on ne trouve pas l'expression fils de l'homme. Matthieu a réfléchi en particulier, mais on trouve ça aussi dans Marc et dans Luc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer quelque chose tout à fait étonnant. C'est que Jésus, au fur et à mesure que l'évangile avance, Jésus va informer le mot, va remplir le mot, fils d'homme, fils de l'homme, d'un sens de plus en plus fort. Disons, va amener les gens, et en particulier ses disciples, puis les gens, à comprendre que ce mot, dans sa tête à lui, est chargé d'un sens que eux, les gens, ne lui donnaient pas. Jésus va se servir de cette expression pour essayer de révéler à ceux qui l'entouraient, qui il était réellement. Ce n'était pas une expression qui était tordue, enfin non, pas tordue, une expression qui était déjà tellement chargée de sens qu'elle était mal comprise. C'était une expression presque vide de sens, humain simplement, que Jésus va remplir de sens. Pour se dévoiler au fur et à mesure. Et alors ça, on le voit au fur et à mesure qu'il utilise l'expression fils de l'homme. Oui. Oui, un peu cela. Oui, une expression. Oui, ça pourrait être la stéréotype, si vous voulez. Une expression, bon, je vais le montrer. Pas une expression. Quelque chose qui est. Oui, biaisé. Non. Oui, pas grave. On vieillit. Hein. Dans une expression qui est déjà tellement marquée par un sens que quand on va l'utiliser, tout le monde va la comprendre et mal. Parce que. Une expression. Bon, parce que, oui, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est comme, par exemple, vous parlez de soumission. De la femme, par exemple, on en a parlé là. Tout de suite, tout le monde va sauter parce que soumission, ça a tellement de connotations. Qui ne sont pas bibliques, qu'on va réagir très fortement. Alors que c'est une superbe expression, ça m'appelle à nous soumettre à Dieu, c'est certainement pas l'esclavage. Ah, bon, pas bien. Alors, ça aboutit à quoi? Alors, ça aboutit à Matthieu chapitre 26, verset 64. Matthieu 26, verset 64. Alors on va lire à partir du verset 62. Nous sommes au procès de Jésus. Le grand prêtre se leva et dit à Jésus, tu n'as rien à répondre, de quoi ces gens témoignent-ils contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils de Dieu. On va trouver le thème du Fils de Dieu Messie. Hein. Jésus lui répond, tu le dis. Il dit en gros oui. Mais il dit, mais c'est toi qui dis ça. Hein. Tu le dis, tu as raison, bon, mais c'est toi qui dis ces mots. Maintenant, attends, écoute ce que je te dis. Seulement, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Alors là, le grand prêtre dit, ouf, hein, parce que les témoins qui étaient là, c'était des faux témoins, qui racontaient n'importe quoi. Ouf, il en a dit suffisamment pour qu'on puisse se condamner sans témoins. Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Bien. Qu'est-ce que fait Jésus? Alors regardez sa réponse. Seulement je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Jésus utilise l'expression qu'il a constamment utilisée pour se désigner lui-même, Fils de l'homme. Mais que les juifs ne comprenaient pas bien. Ce n'est pas une expression décryptée pour eux. Mais Jésus informe cette expression au moyen de deux textes vétérotestamentaires. Premièrement, et il donne du sens à l'expression. Premièrement, il dit, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant. Alors, d'où vient ce siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant? Ça vient du psaume 110. Psaume 110, que les Juifs connaissaient par cœur, bien sûr, c'est un texte messianique par excellence. Je le lis. Le Seigneur, déclaration de l'Éternel. Il a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, etc. et tu domineras, etc. L'expression siégeant à la droite de Dieu, c'est une expression qui renvoie automatiquement au Messie. Et donc le grand prêtre a compris qu'en s'appelant Fils de l'homme, en fait Jésus disait, je suis le Seigneur que vous attendez. Le Seigneur a dit à mon Seigneur,
Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. À ma droite, que je fasse de mes ennemis ton marchepied. Oui. Alors, le Messie, dans certains textes, en particulier à Qumran, c'est rare, est appelé fils de Dieu. Là, dans la parole du grand prêtre, c'est certainement le cas. Es-tu le Messie, le fils de Dieu? Fils de Dieu, comme David était fils de Dieu. C'est le fils royal de Dieu, comme Israël aussi est le fils de Dieu. Le roi messianique est le fils par excellence de Dieu, Israël étant le fils de Dieu. L'Ancien Testament est à fait. Alors, pour le Seigneur, alors là vous savez que c'est Jésus qui est un très bon théologien. Moi je suis toujours frappé quand on dit que la théologie c'est pas spirituel. Quand on voit la qualité d'exégèse de Jésus, c'est remarquable. Parce qu'un jour les pharisiens viennent le voir, on voit ça dans la Matthieu, on n'a pas le temps de le voir, et puis ils disent à Jésus, par quelle autorité tu fais ça? Et puis, et Jean-Baptiste et tout ça. Bon. Alors Jésus leur dit, écoutez, je vais vous répondre si vous me répondez à ma question. Non, pardon. Après, donc il pose, oui, l'autorité de Jean-Baptiste et tout ça. Et puis après, il dit, attendez, je vais encore vous poser une question. De qui le Messie est-il le fils? Alors bien sûr, les Juifs, fils de David, dans leur tête. Et alors Jésus leur dit, mais attendez, si c'est de David, comment David, qui a écrit le psaume 110, peut-il dire... L'Éternel, le Seigneur, a dit à mon Seigneur, le Messie, assieds-toi à ma droite, tout ça se passe, c'est le Seigneur. Si le Messie est fils de David, qui a écrit le psaume, comment David peut-il lui appeler le Messie, mon Seigneur? Exégèse remarquable. Et les pharisiens, ils ont rien dit. Un excellent théologien, Jésus. Il leur cloue le bec, pas le mot, parce qu'exégétiquement, il n'y avait pas de réponse possible. Ça veut dire que le Messie, c'est le Seigneur de David. L'ambiguïté, l'identité du Messie, qui est ce Messie? Il est fils de David, oui, mais il y a plus que ça. Et là, le grand prêtre le comprend. Que quand Jésus dit « fils de l'homme », en fait, il pensait « Messie ». Mais alors, attention, Jésus décrypte, et c'est là que enfin il décrypte totalement cette expression « fils de l'homme » pour les gens de son époque. C'est petit à petit, c'est là qu'il arrive au bout. Parce qu'il ajoute autre chose. Il dit « et venant sur les nuées du ciel ». Alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est Daniel 7. C'est celui qui est semblable à un fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel auprès du Père, de Dieu qui est le vieillard glorieux assis sur son trône. Et tout à coup, ces gens ont dû se dire, mais non d'une pipe, quand ils nous disent les fils de l'homme, c'est à ça qu'ils pensaient. Dans sa tête, à celui qui vient s'asseoir sur le trône. Vous en comprenez. Et puis il déchire. Il a blasphémé. Pourquoi il a blasphémé? Pourquoi il a blasphémé? Parce que qu'est-ce qu'il veut dire en disant fils de l'homme? Alors on va encore lire Ézéchiel. Ézéchiel. Alors ça, c'est des textes superbes. Ah là là. Ézéchiel chapitre 1. Vous avez la vision, vous savez, la vision de la gloire de Dieu. Ézéchiel chapitre 1. Alors vous savez que Ézéchiel et Daniel ont été écrits à peu près à la même époque. Ils étaient contemporains. Ézéchiel et Daniel. Ézéchiel chapitre 1 verset 4. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu.
En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait quatre faces, quatre ailes. Ah, vous voyez Ézéchiel qui voit une vision extraordinaire. Et puis, il voit un char. Il voit un char. Verset 15. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté d'eux une roue qui touchait terre. Les quatre roues étaient pareilles. Elles semblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une en l'autre, l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les quatre directions sans pivoter. Les jantes des quatre roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Alors, Ézéchiel, il voit la gloire de Dieu, le char, avec les quatre chérubins qui entourent le char et qui avancent. C'est fantastique comme vision. Bon. Et puis, verset 27. Au-dessus de la tête des quatre vivants. Alors, vous voyez, Ézéchiel qui commence à voir au-dessus du char. Au-dessus de la tête de ces quatre vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste, qui avait l'éclat éblouissant du cristal. Sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes, donc les êtres vivants, jusqu'à toucher celles de leurs voisins, et chacun en avait deux qui lui couvraient le corps. Quand ils se déplaçaient, j'entendis le bruit de leurs ailes, un bruit semblable au grondement des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit de grand tumulte, comme celui d'un campement. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Alors, une voix retentit au-dessus de l'étendue céleste qui surplombait leur tête. Attention, on va passer au-dessus. On passe au-dessus. Qu'est-ce qu'on attend voir? Qu'est-ce qu'on voit, Dieu? Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône. Aïe, on s'approche. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'apparence de Dieu. L'apparence d'un homme. D'un homme. D'un homme. Et après, cet homme est décrit, il est flamboyant, c'est du feu, c'est toute l'apparence d'un homme, mais mille fois plus. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, l'apparence étincelante de l'airain, l'aspect du feu tout autour. C'est un homme éblouissant. Notre Dieu, c'est la prédication, par exemple, est humain. C'est la main. Ézéchiel. Alors, c'est une image. Et c'est pas une bête. C'est pas un ours, c'est pas un léopard. C'est pas une bête, c'est un homme. C'est un homme. Dans Daniel, la vision se dédouble. Dans Ézéchiel, c'est Dieu lui-même sur le trône. Il est quand même là. Dans Daniel, la vision se dédouble. C'est le vieillard et l'homme qui vient vers Dieu. Alors, je vais vous donner ma conclusion. Mais là, c'est un travail parce que je me passe encore juste d'autres choses.
Je prétends que chaque fois que Jésus disait « Fils de l'homme », il pensait « Fils de Dieu ». Il pensait « Fils de Dieu ». Que chaque fois que Jésus disait « L'homme, Dieu, Fils de l'homme », il pensait « Dieu le Fils ». J'ai pas le temps de vous le prouver. Mais il y a des textes où Jésus passe du Fils de l'homme au Fils, tous courts, de manière absolue, Matthieu 24, etc. Le Fils, qui montre que pour lui, Fils de l'homme égale Fils de Dieu. Et pas humain, pas le nouvel Adam. C'est Fils de Dieu, me semble-t-il. Alors, je vous signale que dans Matthieu 26, que nous avons lu, il dit au prêtre, tu le dis seulement, je vous le déclare désormais, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit au grand prêtre, aux juifs, vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite du Dieu puissant, et venant sur les nuées du ciel. Est-ce que les grands prêtres l'ont vu? Non. Est-ce qu'il est venu sur les nuées du ciel? Comment comprendre? Alors, je vous lance l'idée à vous de travailler, de réfléchir. À plusieurs reprises, dans Matthieu, il est question de la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme sera venu, viendra. Par exemple, dans Matthieu 10, verset 23, Jésus dit: vous n'aurez pas fini d'annoncer l'évangile dans toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et on retrouve cela dans plusieurs textes. Qu'est-ce que Jésus entend par là? Alors, je vous donne mon explication. C'est vraiment pour vous encourager à travailler. C'est quoi cette venue du Fils de l'homme? Ce n'est pas la venue du Fils de l'homme sur la terre, obligatoirement. Mais c'est la venue dont il est question dans Daniel. Je vis un homme venant sur les nuées s'asseoir sur le trône du vieillard dans le ciel. C'est ce que voit Daniel. Et quand est-ce que Jésus est venu s'asseoir sur le trône du Père? C'est à l'ascension. Dans le ciel. Oui.
Est-ce que Jésus a dit dans Daniel, ici dans le chapitre, tout à fait comme vous venez de dire, il signifie à la droite du Tout-Puissant,
à la droite du Tout-Puissant. C'est à droite de Dieu, au ciel.
Et je veux dire, est-ce que Dieu est sur là?
Il y est. Mais Dieu est au ciel. Jésus siège à la droite de Dieu, du Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Pilate, qui est mort, qui a été crucifié, qui est mort, qui est monté au ciel, qui s'est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et qui reviendra de là pour juger vous et vous. Le credo. Jésus, aujourd'hui, est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Il est venu, il est monté au ciel. C'est l'Apocalypse chapitre 4 avec chapitre 5. L'agneau est venu et s'est assis sur le trône. L'agneau. Apocalypse chapitre 4, chapitre 5. Un Jean qui dit: et je pleurais car il y avait le livre et personne n'était capable d'ouvrir les sceaux du livre. Et je demandais: qui est digne d'ouvrir les sceaux? Et l'ange me dit: ne pleure pas, car il est digne, celui qui est mort, ce qui est l'agneau. Et je vis au milieu du trône un agneau. Les anges et les vieillards dire: il est digne. Apocalypse chapitre 4, là je cite, Apocalypse chapitre 4, chapitre 5. L'agneau ressuscité, monté au ciel, venu s'asseoir sur le trône, ouvre les sceaux. Alors vous me dites, et c'est ce qu'on a dans Daniel, il vient
sur le trône. Alors, sur le trône, il n'y a pas à la droite de puissance, ici c'est l'âme.
Oui, alors là, je crois qu'il faut, vous savez, il faut mélanger, là, il est au mélange. À la droite du Dieu Tout-Puissant, ça veut dire qu'il est associé au pouvoir de Dieu. Mais dans d'autres textes, il est sur le trône. Alors, je peux dire que Jésus est assis sur le trône. En même temps, il est debout, parce que c'est lui qui dirige. D'autres textes nous disent qu'il est debout. Je vis le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est Étienne qui voit ça. Le Fils de l'homme debout. Et puis, il est aussi dit qu'il est à la droite, il est sur le trône, les symboles bibliques sont mélangés. Et c'est un agneau, et puis c'est un homme, c'est mélangé tout ça. Ouais. Je ne crois pas qu'il faille, c'est pas gênant, ce mélange de citations bibliques. Ouais. Parce qu'il cite le psaume 110 où il est à la droite, puis il cite Daniel où il dit bien sur le trône. Alors, je vais dire cela, parce que j'en étais. Venant, oui, l'ascension, Apocalypse. Alors vous allez me dire, alors Jésus dit au grand prêtre: vous verrez le Fils de l'homme venant. S'assoit, le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous direz, bon d'accord, ton interprétation de Daniel 7, il vient s'asseoir sur le trône des prévêques, mais est-ce que les grands prêtres l'ont vu? Vous verrez. Et ce n'est pas les yeux de la foi, ce sont des juifs païens, incrédules, auxquels ils parlent. Alors comment l'ont-ils vu? Eh bien, je crois que Daniel 10, verset 10, chapitre 10, verset 23, vous verrez, avant même d'avoir fini d'annoncer l'évangile dans toutes les villes de Palestine, vous verrez le Fils de l'homme venir. Le Fils de l'homme viendra. C'est Matthieu, chapitre 10, verset 23. Comment comprendre? Et alors là, on n'a vraiment pas le temps. Mais je pense que la venue du Christ, qui s'est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, s'est exprimé par ce premier acte juridique qui était quoi? Qui était la destruction de Jérusalem. Le jugement du peuple de l'ancienne alliance. La destruction de Jérusalem est comprise comme un acte juridique de condamnation du peuple de l'ancienne alliance qui a rejeté le Messie. Et par cela, ils ont vu. La preuve, c'est Matthieu 24, qui groupe la destruction, qui lie la destruction de Jérusalem à la fin des temps. Il y a une venue du Christ dans ce jugement de l'ancienne alliance qui préfigure sa venue ultime à la fin des temps pour juger. Matthieu 24 montre cela de manière. Ils ont vu cette venue céleste qui un jour deviendra une renaissance sur la terre lorsque le Fils de l'homme viendra de manière ultime pour juger. Alors, je finirai. J'ai conscience de ce que je vous dis, vous pouvez dire, oh, c'est bien beau, c'est pas con, vous pourrez trouver tout ça. À vous de travailler. Alors, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à un livre de R.T. France. Je ne sais pas si j'ai marqué, c'est pas une biographie. Il y en a plusieurs, il a écrit plusieurs livres. Alors c'est The Use of the New Testament, Use of the Use. Attendez. Alors, je sais pas. Si. Jesus and the Old Testament, His Application of Old Testament Passages to Himself and His Mission. France développe cela de manière excellente dans ce bouquin, si vous voulez approfondir la question. Je finis ce point. On va vite aborder un autre problème parce qu'il faut quand même. Oui, mais c'est... Bon, on étudie Matthieu sans l'étudier. Hein. On survole quelques thèmes, on voit un peu les trames. Mais on voit là comment Jésus s'est présenté. Alors vous allez me dire, enfin, quelle est l'une des preuves que je crois que chaque fois que Jésus, lorsqu'il parle du Fils de l'homme, pensait Fils de Dieu. Et vous savez quelle est l'une des preuves qui, à mon avis, est la preuve la plus évidente? C'est que en dehors des évangiles, où l'expression est utilisée des dizaines et des dizaines de fois, là, il n'y a pas Jean, il y a en bas aussi. Hein. Où l'expression est utilisée des dizaines et des dizaines de fois. L'expression Fils de l'homme ne se retrouve plus jamais dans le Nouveau Testament. Sauf dans Actes 7. Il dit le Fils de l'homme, c'est la vraie discussion parce que c'est une citation de Jésus. On retrouve dans Apocalypse un être comme un Fils d'homme. Ce n'est pas l'expression Fils d'homme. Pourquoi? Eh bien, parce que le Fils de l'homme. Révélé, décrypté. Il n'y avait plus besoin d'utiliser le langage crypté de Jésus, qui s'est révélé petit à petit à ses contemporains et à ses disciples. Puisque sa révélation avait abouti
lors de sa mort et de sa résurrection. Et que le mot qui a pris le relais, c'est le mot d'Emmanuel, qu'on retrouve alors régulièrement dans les Écritures. C'est quand même très étonnant que le mot par lequel Jésus se présente constamment soit plus du tout utilisé par l'Église. Voilà donc la manière dont Jésus s'est présenté grâce à ce texte du Fils de l'homme. J'aimerais maintenant aborder en 2 minutes le grand 3, une théologie de l'Église. Est-ce qu'on peut, on peut abandonner ça? J'espère qu'il y a assez d'éléments pour que vous puissiez un peu travailler vous-même. Théologie de l'Église. Alors, si vous prenez le plan de Matthieu, que je vous ai proposé, donc vous voyez, donc grand 1 prologue, grand 2 l'évangile du royaume. Bien. On a là, l'évangile du royaume, c'est le nouveau Moïse, le nouvel Israël, qui se révèle et qui donne la loi du royaume, sermon sur la montagne. Et on voit tout de suite après, dans le grand 3 et le grand 4, nous l'avons vu, Jésus qui commence à se révéler petit à petit. Petit, donc, dans 1, narration, vous voyez donc page 42, vous savez, vous suivez ? Page 42. Il se révèle tout d'abord comme le serviteur qui s'est chargé de nos maladies, avec les actes d'autorité sur la maladie. Et puis l'autorité du rabbi fils de l'homme, qui appelle aux disciples là. Avec une structure, donc appel, 3 actes d'autorité, nouvel appel, 3 actes d'autorité, puis une conclusion où on parle des guérisons et de l'appel, des ouvriers. Et l'on voit le deuxième discours, donc le chapitre 10, qui commence par l'appel des 12, la 12 tribus, que Jésus instaure et qu'il envoie. L'Église, communauté messianique commence à être rassemblée par l'appel que Jésus adresse à ceux qu'il veut qu'il le suive. Les 12 en sont les pierres fondamentales, si vous voulez. Mais il y a d'autres disciples qui suivent Jésus. Jésus réunit autour de lui une communauté. La communauté du royaume, ce n'est pas le royaume. Je vous ai dit que je préfère le terme royaume au terme règne. Ce n'est pas le royaume qui inclut une terre renouvelée, mais c'est le peuple du royaume que Jésus est en train de rassembler autour de lui, en appelant les individus à suivre. Et Jésus, dans le grand 4, intrusion du royaume et montée d'opposition, va retracer l'histoire du royaume au moyen des paraboles. Chapitre 13, dans le printemps de l'Ouvrage. Ce qui nous amène au grand 5, la polarisation des choix et la communauté du royaume. Et je vais donc prendre, dans ce grand 5, nous allons prendre la section 16, 13 à 17, 27. Nous n'avons pas le temps de voir le chemin de la crédulité est celui de la croix, il y a un choix à faire. Le signe du pain, nous n'avons pas le temps de voir cela. Pourquoi j'ai regroupé ces choses? Il y a des raisons très précises, mais ce n'est pas grave. On va voir le petit C, la voie du royaume, chemin de la croix. Et vous avez là des textes assez étranges, qui sont regroupés. Alors j'ai marqué grand A, confession de Pierre, grand B, première annonce de la mort et de la résurrection du Fils de l'homme, grand C, transfiguration, C', guérison d'un démoniaque. B', deuxième annonce de la mort et de la résurrection du Fils de l'homme. Grand A', le tribut du temple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ABC, C', B', A'? Hein, c'est ce qu'on appelle un chiasme. C'est que le A, confession de Pierre, renvoie au A', le tribut du temple. Le B, première annonce de la mort et de la résurrection du Fils de l'homme, renvoie au B', deuxième annonce de la mort et de la résurrection du Fils de l'homme. Et le grand C, transfiguration, renvoie au grand C', guérison d'un démoniaque. Bien. Tout ça, ce serait à prouver. Pourquoi je vois là un chiasme? J'aimerais relever quelques points. Et nous allons surtout nous arrêter au grand A, au grand A', et puis après au chapitre 18. La communauté du royaume. Alors, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Alors je vais développer de nouveau là des idées sans vraiment les justifier. À vous de nouveau donc de commencer. Verset 13. Matthieu 16, 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Alors là, vous voyez que Jésus, c'est extraordinaire la pédagogie de Jésus. Il s'est présenté comme le Fils de l'homme, mais bien sûr il n'a pas été compris. On a cru qu'il parlait des hommes en général. Il donne des informations au fur et à mesure sur ce Fils de l'homme dans les chapitres qui précèdent, jusqu'au chapitre 16. Et puis à la fin, un bon professeur, bon rabbi, il pose la question, alors c'est qui le Fils de l'homme maintenant? Est-ce que vous avez compris les informations que je vous ai données sur ce que je suis moi-même? Il y a là quelque chose. Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors là, vous voyez, vraiment, c'est la bonne théologie. Hein, Jésus ne leur demande pas simplement de dire, donnez-moi la bonne réponse. Il dit d'abord, quelles sont les réponses que l'on donne? Quelles sont les réponses que l'on donne? On soupèse, en faisant de la théologie, on voit les arguments pour cela, les arguments pour cela. Voilà. Et puis après, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Là, il les engage. La vraie théologie, c'est pas seulement une théologie qui se situe au niveau de la réflexion. Il n'est pas de bonne théologie sans engagement. Une théologie, c'est un engage. Et Jésus les engage en théologie, le Fils de l'homme. Il leur dit, vous qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas toi qui as découvert tout ça. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé les cieux, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il leur commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ne divulguons pas cela, car les gens ne comprendraient pas. Bien. Il y a là le mot église. Le grec a le mot ecclésia. Verset 18. Puis Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, comment comprendre ce mot? À quoi Jésus fait une allusion? Il semble, très clairement, que nous sommes là à un moment clé. Un moment où, de manière officielle, disons de manière officielle, Jésus reconnaît que le Père a révélé. Il y a quelque chose qui se passe. Il dit, je discerne dans ta réponse l'œuvre du Père. C'est pas toi, ça, qu'on peut la trouver. Et à partir de ce moment-là, il parle de son Église. Alors, quel mot Jésus a-t-il pu utiliser en araméen? Alors, on peut hésiter. On peut penser que Jésus utilise le mot kal, le mot assemblée. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, dans le désert, lorsqu'on prend la Septante, c'est lorsqu'on prend Actes chapitre 7, où il est question de l'assemblée des Juifs dans le désert, le mot assemblée, ceux qui ont répondu à la vocation, à l'assemblée, qui ont été rassemblés, est traduit par ecclésia dans Actes 7. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés. Kaléo. Ecclésia, c'est Kaléo, appelé. Donc certains proposent qu'ici, en arabien, Jésus parle de l'assemblée, comme de ce groupe de Juifs qui sont partis dans l'Exode, ont été assemblés, ont été appelés pour partir. Seulement, il y a le problème de la construction. Tu es pierre et sur cette pierre. D'où l'autre, une autre interprétation, celle de M. Baucher et d'autres, très prêts à le suivre, sur ce que je propose, c'est que nous avons là le mot bait, la maison. Puisqu'ils sont des pierres. La maison. La maison d'Israël. La maison de Dieu. Construit avec des pierres. Mais si c'est la maison, c'est quoi cette maison? Maison de Dieu, c'est le temple. Il me semble que Jésus est en train de dire là quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il va, suite par la confession de la foi, il va construire son temple, son église, avec des pierres. Vous savez que plus tard, l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrira son épître, la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, il dira, approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous en un temple saint, afin de former un temple saint. Car vous êtes sacerdoce, un sacerdoce royal. On a là une théologie du nouveau temple que le Seigneur est en train de construire au moyen d'êtres humains qui répondent, qui reconnaissent en lui le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus est en train de nous dire que ce temple, en fait, qui va être construit, c'est un temple qui va se répandre sur la terre. C'est assez intéressant. Il donne des clés de ce temple, des clés de cette maison, à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés qui permettent aux pierres de rentrer dans ce temple, dans cette construction. Alors, vous savez comment moi je comprends cela, mais je dis ça comme ça, mais oui, je reprends ce que nous avons fait ce matin. Je pense que l'apôtre Pierre a eu un rôle historique décisif dans la construction du temple humain de Jésus-Christ. Quel est ce rôle décisif? Un rôle historique. C'est l'apôtre Pierre qui a prêché lors de la Pentecôte, qui a ouvert le royaume
à tous ceux qui étaient assemblés lors de la Pentecôte. Vous savez que l'on constate à Samarie un événement très bizarre. C'est que les gens se tournent vers Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit n'est pas répandu de la même manière sur eux que sur les Juifs de la Pentecôte, à Samarie, lorsque Philippe leur prêche l'Évangile. Et qu'il faut appeler Pierre et Jean pour qu'ils leur imposent les mains et que l'Esprit vienne de la même manière. Eh bien, je pense qu'il y a là la deuxième étape du royaume qui est construite. Le temple. Hein, Jésus avait dit, vous annoncerez l'Évangile à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, jusqu'au bout du monde. Eh bien, c'est Pierre qui devait ouvrir le royaume aux Samaritains. Deuxième étape. Et une troisième étape, c'est Pierre de nouveau qui est appelé à aller chez les païens, chez Corneille, pour ouvrir le royaume aux nations. Et quand il a fini ce travail, Pierre disparaît des Actes. Nous sommes là au chapitre 12, chapitre 11, chapitre 12, Pierre disparaît, il réapparaît juste au chapitre 15. Et c'est Paul qui prend le relais, qui annonce l'Évangile jusqu'à Rome. C'est là une théologie de l'histoire du royaume. Ça ne veut pas dire que Pierre n'a rien fait, hein, ne le voit pas. Mais bon, Luc a sélectionné les événements parce que ça fait partie de la construction de son royaume. Jusqu'à. On a donc là apparemment une théologie de l'Église, du peuple, qui est le temple. Le temple que Dieu construit. Alors j'aimerais, puisqu'il est moins 25, on va prendre le chapitre 17 maintenant. Alors vous voyez que sur mon plan, là on prend deux péricopes, hein. Sur mon plan, donc vous avez A, confession de Pierre, et puis A', le tribut du temple. Le tribut du temple. Et vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qui te permet de faire, d'amener ces deux textes, disons, de mettre ces deux textes en correspondance, hein? Chapitre 17, donc, verset 24. Alors on va le lire. Comme ils étaient arrivés à Capernaum, ceux qui perçoivent les 10 drachmes, donc c'est l'impôt du temple. Alors vous savez que dans le monde entier, les Juifs donnaient une somme d'argent, 10 drachmes, pour le temple de Jérusalem. Et tout cela, donc on donnait ça un mois à l'avance, et tout ça a été amené à Jérusalem pour la Pâque. Et alors, Jésus est à Capernaum, donc il n'est pas à Jérusalem. Donc à Capernaum, à peu près un mois avant, il y a des gens qui viennent le voir et disent, écoute, toi, tu es... Ils veulent savoir si le rabbi Jésus donne aussi les 10 drachmes pour le temple, pour l'impôt du temple. Alors, on va. Comme ils étaient arrivés à Capernaum, ceux qui perçoivent les 10 drachmes s'avancèrent vers Pierre et lui dirent, « Est-ce que votre maître ne paie pas les 10 drachmes ?»« Si, » répondit Pierre. Quand Pierre fut arrivé à la maison, Jésus prenant les devants lui dit. Alors là, problème donc des 10 drachmes. Alors Jésus, donc c'est fini, hein. Pierre a dit, « Mais si, on va payer les 10 drachmes, on les paye, c'est pas un problème. » Il sait que Jésus les paye. Et puis tout à coup, Pierre rentre, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. Et puis tout à coup, c'est Jésus qui prend les devants. On se demande pourquoi. Et il dit, Jésus prenant les devants, lui dit, quel est ton avis, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou impôts? De leur fils? Ou des étrangers. Est-ce que vous croyez que c'est... on va donner des noms. Hein. Mais bon, est-ce que vous croyez que ce sont les fils des rois qui payent à leur père de quoi vivre, ou est-ce que ce sont les étrangers? C'est pas d'accord. Ou les pays étrangers qui payent des impôts à Rome, par exemple. Et comme il répondait des étrangers, Jésus lui dit, par conséquent, les fils sont libres, ils n'ont pas à payer. Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens-là, pour ne pas les scandaliser, causer la chute, c'est bien traduit, va vers la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Le statère, ça fait 2 fois 10 drachmes, donc pour les deux. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je résume, il est moins 20. Jésus est simplement en train de dire cela. Pierre, d'après toi, qui est-ce qui devrait payer pour le temple? L'impôt. Eux, avec les prêtres et tout ça? Ou moi, Jésus, et toi, mon disciple? Eh bien, moi, je te dis, Pierre, que c'est eux qui devraient payer, pas moi. Parce que celui qui est le fils du temple, c'est pas eux, c'est nous, c'est moi, Jésus. Ceux qui sont celui qui est le légitime occupant du temple, ce ne sont pas les prêtres à qui on paye l'impôt. Ce ne sont pas tous ceux qui y sont là-bas. Mais c'est toi, Pierre, et moi, Jésus. Nous ne devrions normalement pas payer. Parce que nous sommes à notre place dans le temple. Et c'est à nous qu'on devrait payer l'argent. C'est ce que Jésus lui dit. Il revendique sur le temple son autorité, car c'est lui, avec ses disciples, qui a l'autorité légitime sur ce temple. Puis il lui dit, attention, Pierre, on ne va pas les scandaliser, on ne va pas créer de vagues maintenant. On va payer. Payons. Alors, ce n'est pas de la démission. Parce que qu'est-ce qui va se passer quelques semaines plus tard, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, chapitre 21, verset 12. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Il leur dit, il est écrit, ma maison. Ma maison, de moi Jésus. Là, il ne dit pas mais la maison de mon père, comme dans Jean. C'est pour ça que je crois qu'il y a deux événements. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de bandits. Des aveugles et des boiteux s'avancèrent vers lui dans le temple et il les guérit. Scandale! Des malades, des aveugles dans le temple! Alors que normalement, ils étaient exclus. En tout cas, il ne devait pas trop s'approcher. L'aveugle et le boiteux n'entrera pas dans le temple. C'est dit dans Lévitique, dans l'Ancien Testament. Il les accueille, voyant les choses étonnantes qu'il venait de faire, et ses enfants qui criaient dans le temple. Aïe, 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 aïe. Les enfants avaient le droit d'être dans le parvis des femmes. Là, on est peut-être dans le parvis, hein, dans la cour. Mais laisser les enfants crier comme ça, c'était intolérable. Jésus exclut les trafiquants d'argent, là. Il accueille les pauvres, les malades et les enfants. Dans sa maison. Hosanna au fils de David, criait-il. Les grands prêtres et les scribes furent indignés et lui dirent, tu entends ce qu'ils disent? Mais Jésus leur dit, oui, n'avez-vous jamais lu ce texte? Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé louange. Puis il les planta là. Pas mal traduit un tome. Il les planta là et sortit de la ville, c'est un peu familier, mais bon, et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Vous avez le fils qui prend possession de sa maison. On a là toute une théologie de l'Église. On a vu, chapitre 16, verset 13, la maison bâtie avec des pierres vivantes. Et ça renvoie à cette autorité que Jésus revendique sur son temple. Qu'il va nettoyer quelques semaines plus tard. En accueillant qui? Ceux précisément avec qui? Au moyen desquels il va construire le temple fait d'homme. Dans lequel va habiter l'Esprit et qu'il va créer lors de la Pentecôte. Vous avez là toute une organisation du texte, vous suivez ce que je veux dire, qui est tout à fait significative. Alors, cette église, eh bien, Jésus en parle de manière un peu plus claire au chapitre 18. On a une section narrative, chapitre 14, 15, 16, qui aboutit à un discours qui est dans le chapitre 18. C'est dans mon quatrième discours, la communauté du royaume. Et le lien est fait par le texte lui-même. On a deux fois la mention de l'église dans Matthieu, et la deuxième mention, la première est dans Matthieu 16, l'église temple, la deuxième, dans Matthieu 18, au verset 17, et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et on retrouve au verset 18, en vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. C'est précisément la parole de Matthieu 16 aussi. Le lien est explicitement établi par Jésus. Alors, on n'a pas le temps parce qu'il est moins tard. Mais comment est-ce que ce temple construit de main d'homme va être édifié par le Christ? Comment va-t-il faire? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Alors, je reprends simplement mon texte. C'est que ce royaume, ce temple, cette église est pour les humbles. Chapitre 18, verset 1 à 5, c'est cela. C'est sur mon plan. Ce sont ceux qui s'humilient, qui se convertissent, qui entrent dans ce temple. Et cette maison sera construite avec le souci des petits et le refus de faire chuter. Le refus des scandales. Et le souci des égarés, la parabole de la brebis perdue, chapitre 18, verset 12 à 14. Ça forme une unité, tout cela. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette démarche de construction de l'Église? Eh bien, c'est la démarche du pardon. 18, 15 à 22. C'est par le pardon réciproque que l'Église tente va être construite. Et ce pardon est nécessaire. La parabole du serviteur impitoyable, chapitre 18, verset 3-35. Voilà comment le Seigneur entend construire aujourd'hui son Église. Et c'est dans cette Église qu'il est présent. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu. De même que dans sa maison, le Seigneur, l'Éternel de l'Ancien Testament, habite. L'Église est le lieu de la gloire de Dieu. Alors cette gloire est encore bien faiblement perçue et palpable. Mais, dans la section 16 à 17, là qu'on a vu, la confession de Pierre et Temple, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la transfiguration. Transfiguration. Et que dans ce temple qui est en train d'être construit un jour, viendra l'agneau transfiguré dans toute sa gloire. Car dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. C'est Jérusalem, notre ville, que nous abordons. Qui est l'agneau, qui est le temple de cette Jérusalem. C'est au milieu de nous, épouse de l'agneau, peuple de Dieu, temple fait d'homme et de femme, qu'habitera la gloire. Théologie de l'Église, il faudrait étudier les rapports entre Israël et l'Église dans Matthieu, il y aurait beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps, mais bon, ce sera à vous d'étudier. Est-ce qu'il y a une question pour finir? Oui. Alors, ce que j'ai dit, c'est que Jésus n'a pas parlé en grec en disant cela, et que donc le grec traduit un mot que Jésus a utilisé en araméen, lequel? Est-ce qu'elle a utilisé le mot qui correspond au cal, enfin bon, à l'assemblée, que reprend le mot d'Église, ou est-ce qu'elle a utilisé autre chose? Je proposerais qu'elle a plutôt utilisé le mot baït, qui veut dire maison,
et que ce qu'est précisément l'Église est la maison de Dieu. Pourquoi Baït ? Que Matthieu traduit par maison, par Ecclesia, il y a un travail, la théologie dans la traduction, parce que c'est Jésus parle de construction, de pierre, et que ça va beaucoup mieux avec maison qu'avec assemblée. Voilà, c'est mon avis. Oui. Quelle conclusion ?
Maintenant, sur la question de pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que les catholiques ont raison d'appeler certaines églises églises de Saint-Pierre ? Parce qu'il y a une question. Je pense que j'ai lu quelque part, c'est dans une revue historienne. Un historien affirme que Jésus, tout comme Jean-Baptiste, faisait partie des Séniers. Est-ce que vous, vous êtes bon?
Ces questions. La première question, Jésus, bien sûr, lui-même, n'a pas souffert de cette confusion. Mais ce sont les gens eux-mêmes qui étaient un peu confus.
Non.
Ce sont les gens qui ont mal compris. Alors, Jésus, comme nous, a considéré, nous devons le considérer, que communiquer l'Évangile, que pour communiquer l'Évangile, il faut amener les gens à comprendre. Et donc, Jésus a employé une démarche de révélation progressive de sa personne pour amener les gens à mieux le comprendre. Ça ne peut pas se faire en un coup de baguette magique. Ça a pris du temps. Et donc Jésus s'est présenté comme le Fils de l'homme à cause de cela. C'est facile de répondre. Parce que Jésus nous respecte. Et a respecté les gens qui sont là. Deuxième question. Alors c'était à propos du Fils de l'homme. Il y avait
les
enlever. Notre espérance, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Je crois dans l'enlèvement de l'Église. Je crois au retour immédiat de Jésus-Christ d'ailleurs. Vous savez que les chrétiens évangéliques, il y en a qui pensent qu'il y a 3 ans et demi après, puis il y en a qui pensent qu'il y a 7 ans. Je pense que l'enlèvement de l'Église a lieu et Jésus revient tout de suite avec l'Église. Il n'y a pas de... Mais bon, ça c'est des différences entre conception des choses.
Tu vas parler d'enlèvement de l'Église, tu vas parler de l'Église qui a été enlevée.
Oui.
Également.
Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que notre espérance, ce n'est pas d'être enlevé, ni de mourir, ni d'être avec le Seigneur après la mort. Je crois que nous serons avec le Seigneur après la mort. Mais l'espérance du chrétien, c'est la résurrection d'entre les morts. Élie n'est pas encore ressuscité. Jésus est ressuscité. Élie n'est vivant que dans un état intermédiaire, séparé de son corps. Jésus, lui, est le seul qui aujourd'hui est vivant en étant pleinement homme. Aujourd'hui, Jésus. Il est homme dans son âme, je dirais, homme dans son corps. L'homme, Jésus, est quelque part au ciel, ressuscité. Et c'est en tant qu'homme entier, et pas seulement en tant qu'âme, comme Élie, comme tous les croyants. Nous tous, après la mort, nous sommes présents auprès du Seigneur, mais dans notre âme. Pas dans notre corps. Ce que nous attendons, c'est la résurrection des corps. Parce que Dieu sauve l'homme tout entier, il ne sauve pas seulement l'âme. Jésus, lui, est déjà tout entier dans la vie de résurrection. Et c'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et il reviendra un jour avec son corps de résurrection aussi, en emmenant les âmes de ceux qui sont morts pour les ramener avec lui. C'est ce que dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors pour, là, je vais assez vite, hein, pour Pierre, et je construirai. Alors je pense que l'Église n'est pas construite sur l'apôtre Pierre, l'Église est construite sur la confession de Pierre. Et donc, moi j'aime bien qu'on appelle l'Église une Église Saint-Pierre, une Église Saint-Paul, pourquoi pas. On peut très bien donner le. C'est peut-être plus sympathique que de dire l'Église d'Arbitaire. Moi je vais à l'Église d'Arbitaire. Si je disais je vais à l'Église Saint-Paul, ce serait pas mal.
Quoi, Saint-Jean,
ou Saint-Jean, ou. Nous sommes tous des saints. Non, mais là. C'est pour dire que ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la théologie qui est derrière. On ne consacre pas une église à une personne particulière. Il n'y a pas des saints qui ont un rôle de médiation entre nous. Mais on pourrait très bien dire, on avait dit à l'église baptiste. Moi, je suis membre de l'église baptiste, c'est méthodiste. D'autres mélonites, pourquoi mélonites? Mélosimons. Assemblée de frères, ça renvoie à Darby, ça renvoie. Pourquoi parler de pentecôtiste c'est une doctrine particulière. Pourquoi sanctifier une doctrine particulière lorsqu'il existe de Pentecôte, une église baptiste qui baptise les croyants ça dépend des noms qu'on donne. Il ne faut pas donner aux noms un rôle trop particulier. Ce qu'il faut éviter, c'est de penser qu'entre l'église et Dieu, il y a un Saint-Pierre, il y a un Saint-Paul, il y a un Saint-Jacques, il y a un Saint-Baptiste, il y a un Saint-Darby, il y a un Saint-Médon-Simon. C'est que l'église, l'église de Dieu, c'est le temple de Dieu dans lequel nous vivons. Ça me semble très important. C'est pas le nom qui est important. Oui. Alors, Jésus Esséniens ou Jean-Baptiste. Alors, je pense que Jean-Baptiste a certainement eu des contacts avec les Esséniens, a eu des contacts, mais que sa théologie est très différente de la théologie essénienne. Je donne un exemple. Les Esséniens avaient une conception de la pureté rituelle. Il fallait se purifier avant tous les repas de communauté, etc. Et on se purifiait tout le temps. Jean-Baptiste, sa conception du baptême, c'est un baptême unique, de confession des péchés. C'est une autre théologie. Mais il est fort possible que Jean-Baptiste a eu et eu des contacts avec les Esséniens. Je ne pense pas que ce soit le cas de Jésus. Non, ils n'ont pas dit non. Alors oui, quand on dit que Jésus est un essénien, vous savez, c'est Renan, hein. Renan qui disait le christianisme est un essénisme qui a réussi. Je crois que ça c'est faux. Ni Jésus ni Jean-Baptiste ne sont des disciples des esséniens. Je crois que Jean-Baptiste a pu avoir des contacts, je ne pense pas à Jésus. Et je pense surtout que la théologie de Jésus, la théologie de Jean-Baptiste est très différente de la théologie des esséniens. Que ça, on peut le manquer. Oui. Sur le Christ confessé par Pierre.
Monsieur, vous avez parlé d'un état intermédiaire, ouais?
Oui. Okay.
Alors, si ça existe, où se trouve-t-il? Sur la terre ou bien dans le ciel?
Dans le ciel, quelque part, auprès de Jésus. Vous savez, on peut tellement être matérialiste qu'on s'imagine que lorsque quelqu'un meurt, c'est comme il y a une âme, et cette âme va quelque part. La personnalité demeure. Il y a quelque chose de l'homme qui reste après la mort, qui va vers Dieu, et qui revient avec le Seigneur. Je ne peux pas l'expliquer. Mais il me semble que. Ou alors, faut que je supprime beaucoup de textes de la Bible. Hein. Et là, pourtant, nous ressusciterons, ces âmes retrouveront le corps encore glorieux, et nous serons nous-mêmes restaurés dans notre humanité pleine.
Qui était déjà là, roi, et tout comme Jésus. Et elle revient bien sur terre.
Oui, avec les âmes. Il y aura une résurrection sur terre. Oui, alors vraiment, je crois qu'il faut qu'on arrête. Il est 4 heures, je suis tout à fait en train de faire les choses, donc c'est pas fini. Voilà, merci beaucoup.